le 9 novembre 89. Retenons bien cette date.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Et oui, on a bien retenu la preuve. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec nous pour une soirée énervée, toujours en deux temps et à deux vitesses. Je le rappelle pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous pouvez nous podcaster dès 18h chaque jour, avant même qu'on passe à la radio de 22h à minuit.
C'est magique.
Là, j'ai été clair. Hein,
ah oui,
Christophe.
C'est clair. Là, c'est et très, magique très clair. À la fois, quand même, il faut le dire.
L'actu ce soir, c'est Berlin, la chute du mur. C'était le 9 novembre 1989, bientôt 30 ans. Alors, ça se fête. Quel bilan? Qu'est-ce qui a changé pour la ville en Europe et dans le monde? Comment se sont redistribuées les forces économiques et diplomatiques? Le mur, on refait l'histoire. Christophe Boursaillier, vous avez un titre certainement, plusieurs même.
Bah moi je préférais Mur de Berlin, faut-il le regretter? C'était quand même ça. Pour moi l'émission c'est plus amusant, sinon Mur de la honte, c'est bizarre, il nous hante. Vous voyez, Berlin, doit-on murmurer à l'oreille du mur?
Ah, c'est parfait. Oui. À côté Agnès Varda.
Oui, alors moi j'avais pensé Clint Eastwood, vous voyez, je ne murmure plus à l'oreille des chevaux. Cours camarade, le vieux mur est derrière toi.
Ça c'est le côté Alex Bopin, d'accord,
et j'arrête là.
Très bien.
Voilà.
Le mur du son ce soir, Marion Guilbault, on va le passer en live?
On va le passer, pas vraiment, parce que ça va être acoustique, mais on va changer de continent surtout, pour que le Brésil ne soit pas synonyme que de Bolsonaro et de désastre écologique. Et ben, Lucas Santana viendra relever le niveau en fin d'émission et en live.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le Énervé la Suite, France Inter, plus de géants du cinéma. Cette semaine, installez-vous pour 4 masterclass et c'est Alain Delon, le grand, le plus beau, qui ouvre ce soir les festivités. Le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de commencer, un tour de table pour vous présenter nos invités. Nicolas Offenstadt, vous êtes historien, vous signez l'Uberix RDA aux éditions Albin Michel. Et je n'oublie pas non plus Le Pays disparu sur les traces de la RDA.
Qui Urbex, vient
de...
Urbex. Urbex.
Et qu'est-ce que j'ai dit?
L'Uberix. Oh, or, on n'est pas
commence,
Uberix.
Non, mais ouais, ouais, enfin, Urbex, exactement.
Y a des
j'ai fait la même chose aussi,
si
au bureau, vous rappelez? J'ai fait la même chose tout à l'heure.
Tout à fait.
Ça vient de ressortir en folio, hein, Le Pays disparu sur les traces de la RDA. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Bernard Thomasson, vous êtes écrivain et journaliste. Ici, bien sûr, aussi à France Info. Et vous êtes l'auteur de Mon Berlin aux éditions MM2M. Ça sort demain.
Absolument.
C'est parfait. Pierre Grosset, vous êtes venu avec un morceau du mur.
Oui, je le dirai après.
Oui, d'accord.
C'est pratique en radio.
Ouais. Pierre Grosset, vous êtes historien. Vous fêtez l'anniversaire de votre livre paru en 2009, 1989, l'année où le monde a basculé. C'est aux éditions Perrin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et enfin, Dorothée Goll, vous êtes chanteuse, performeuse allemande et vous vivez en France. Bienvenue.
Bonjour.
Ça fout les poils, hein, Christophe Boursaillier.
Liebe Genossen, guten Abend. Alors, je me souviens effectivement, moi, ça, c'était l'hymne de la RDA, un pays aujourd'hui disparu, un hymne qu'on n'entend plus beaucoup, à part dans les réunions de très vieux anciens combattants, de plus en plus vieux d'ailleurs.
Mais on l'entend toujours dans ces réunions-là, vous avez raison.
Vous avez tout à fait, Nicolas Offenstadt, puisque vous hantez ces réunions. Je me souviens très bien du mur de Berlin,
Laurent. En même temps,
hein. Vous savez que j'ai assisté en 1989 à Berlin-Ouest à un concert du groupe New Wave The sur une scène en plein air adossée au mur. Et je me demande pourquoi le groupe jouait aussi fort à l'époque. C'était tellement saturé qu'on n'entendait plus rien. Et puis j'ai compris, Matt Johnson, le leader, le créateur de The, ne s'adressait pas au public qui lui faisait face, mais à la ville noire et mystérieuse qui s'étendait de l'autre côté du mur. Il voulait être entendu, évidemment, à Berlin-Est. Alors ce soir, Laurent, c'est vrai, j'ai la nostalgie d'un monde simple. Il fut un temps, Laurent, où le monde donc se divisait en deux. À l'ouest, les démocraties libérales et capitalistes avec des hippies, du Coca-Cola, etc. Et à l'est, le bloc soviétique symbolisé par ses chars et ses queues devant les magasins. Alors ce qui caractérisait surtout cette époque pas si lointaine, c'est le fait que les deux adversaires étaient de taille égale, de sorte que la planète a été littéralement, on pourrait dire, sauvée, par, protégée par l'équilibre de la terreur. Mais en 1989, le mur de la honte, celui qui empêchait les Berlinois de l'Est de visiter leur famille berlinoise de l'Ouest, ce mur s'est brutalement écroulé. Alors au début, tout le monde a chanté, dansé, voire joué du violoncelle. Et puis on s'est aperçu, Laurent, qu'on entrait dans un monde non plus bipolaire mais multipolaire, infesté de cinglés, de terroristes, d'affairistes et d'états voyous. Alors oui, la démocratie a triomphé, le mur a été abattu en 1989, mais le monde a depuis lors plongé dans le chaos. Alors Bernard Thomasson, vous y étiez à Berlin, vous avez beaucoup vécu à Berlin, si j'en juge par votre livre,
formidable,
votre récit,
hein.
Mon Berlin, dans lequel vous racontez votre votre histoire d'amour.
C'est mon amour pour Berlin. Pour Berlin. J'ai pas la possession de Berlin, mais j'ai
Est
un amour fort pour
et
Berlin.
Et Ouest, qu'avez-vous ressenti quand le mur de Berlin s'est écroulé?
Une émotion terrible.
De la joie ou de la tristesse?
De la joie et en même temps de l'inquiétude. Il faut dire que ce mur, alors j'étais pas sur place le jour même en novembre 89, j'y suis allé quelques semaines après. Et donc, quelques semaines après, j'ai mon petit marteau et j'ai enlevé ce petit bout du mur juste à côté de là où j'ai vécu pendant des années sur une petite écluse à Kreuzberg. Et donc, j'ai gardé ce morceau précieusement. Ce jour-là, beaucoup d'émotions parce que je savais que mes amis berlinois de l'Ouest allaient revoir facilement leurs amis de l'Est, que les liaisons seraient plus à l'aise. Et en même temps, de l'inquiétude parce que qu'allait devenir Berlin, qu'allait devenir l'Allemagne. On a vu après que l'Allemagne de l'Est était quasiment absorbée, happée par l'Allemagne de l'Ouest, avec des conséquences économiques que l'on sait, avec une espèce de côté des Allemands de l'Ouest qui disaient on paye pour ces gens-là, et les Allemands de l'Est qui disaient on se fait manger de l'autre côté. Donc déjà, je sentais cette inquiétude-là. Mais en même temps, une grande joie, parce que j'ai beaucoup couru près du mur. Et peu après, j'ai traversé le mur en courant un marathon, et là, j'avoue que j'ai pleuré. Donc voilà, le mur, c'est quand même... C'est un moment de l'histoire fort qui s'effondre.
Dorothée Gold, vous étiez sur place quand le mur s'est effondré?
C'était le 26 décembre 89, j'étais à Berlin, pour la toute première fois de ma vie, parce que je suis née dans le sud de l'Allemagne, et je m'étais ensuite exilée, fait ma perestroïka en France. Et depuis le sud de la France, j'étais venue à Berlin, et pour constater qu'avec mon ami, il devait encore passer par Checkpoint Charlie, moi je pouvais passer au Brandenburger Tor pour aller visiter la RDA qui était quand même encore entière. Et puis le 31 décembre, avoir cette méga fête avec un feu d'artifice ininterrompu au bord du mur et des marteaux qui cassaient partout les, les bouts.
Vous avez entendu
etc.
mon marteau?
Bien sûr. C'était incroyable. Inexprimable, cette foule en liesse.
Qu'est-ce que ça pouvait représenter pour l'Allemande que vous êtes à cette époque-là?
Curieusement, ouais. J'étais très loin en tant qu'Allemande du Sud et ayant même préféré partir de l'Allemagne. Mais Berlin avait toujours représenté une sorte d'îlot à part où étaient par exemple allés les objecteurs de conscience, enfin, où il y avait toute une alternative.
Toute une scène punk extraordinaire.
Toute une scène qui rendait cette ville extrêmement sympathique et attirante, en fait, hein, parce que le reste de l'Allemagne, voilà, m'a plutôt fait fuir. Et voilà que là, tout d'un coup, se joue un destin.
On dit souvent New York, c'est pas l'Amérique, et Berlin, Ouest, c'était pas l'Allemagne, c'est ça?
C'est ça. C'était un îlot à part, et d'ailleurs, même constitutionnellement, c'était le cas.
Hein. Bernard Thomasson, pour vous?
Oui, c'était un îlot à part, en effet, puisque c'était un land complètement séparé, c'est-à-dire que ça n'appartenait pas à l'Allemagne de l'Ouest, c'était un territoire indépendant, en quelque sorte, si on peut dire, et c'est vrai que c'est un endroit où beaucoup de jeunes se réfugiaient, s'étaient réfugiés auparavant, parce qu'il n'y avait pas de service militaire, et donc il y avait cette volonté de construire autre chose, de faire la ville d'une manière différente. C'est là que sont nées beaucoup de communautés, de gens qui se mettaient dans des grands appartements, ils vivaient à 6, 10, 15, chacun avait sa chambre, on mettait la pièce commune, moi j'ai des amis qui étaient là, et donc on allait les voir, on passait l'après-midi midi dans le salon à discuter, puis après chacun rentrait un peu chez
moi,
soi.
Moi je me souviens que j'allais à Berlin-Ouest à cette époque-là, j'allais à l'Est aussi parce que c'était fascinant, mais j'allais principalement à Berlin-Ouest parce qu'il y avait le groupe des Geniale Dilettanten de Blixa Bargeld, le fondateur d'Einsturzen de Neubauten, et c'était toute une scène malaria, Gutrungut, il y avait toute une scène berlinoise extraordinairement créative et qui restait créative, c'est-à-dire que Berlin-Ouest c'était une espèce de folie tout à fait mystérieuse, un peu surprenante si vous voulez, on ne sait pas pourquoi, ça se concentrait là, et la folie...
Il y avait une exubérance, mais on sait un peu pourquoi, parce que les
c'était
gens étaient...
C'était comme le Berlin des années 20,
oui, mais justement, parce que les gens étaient enfermés dans le mur, et donc il y avait cette volonté de sortir de ce mur d'une manière ou d'une autre. Et l'une des manières, c'était de vivre à fond. De vivre à fond la culture, la musique, etc. Et l'exubérance architecturale également, hein, la philharmonie, enfin toutes ces choses-là sont nées à cette période-là.
Et vous, Nicolas Offenstadt?
Vous étiez trop jeune, ou vous êtes allé sur le mur de Berlin?
Vous êtes gentil de me rajeunir, mais...
Oui, j'étais toujours très gentil, vous savez, ça s'appelle la démagogie.
Voilà. Donc j'étais étudiant à Sciences Po, et je me rappelle, pour être honnête, j'étais à l'époque très gorbatchevien, donc j'avais beaucoup d'espoir dans ce socialisme à visage humain que promouvait Gorbatchev. Donc pour moi, l'effondrement du mur n'a pas été une joie particulière, j'étais plutôt... c'était une grosse interrogation. Je me souviens très bien, beaucoup de jeunes de mon âge se précipitaient voir le mur, j'en avais aucune envie, parce que pour moi, ça symbolisait l'inquiétude et l'échec aussi. C'était l'échec définitif de ce qu'avait été le bloc de l'Est, de ce qu'il avait, en tous les cas je le voyais comme un chemin vers cet échec, qui avait mis en avant de l'échec, donc du coup il y avait pour moi rien de joyeux à ce que les espoirs qu'avait pu fonder Le communisme au début du siècle s'effondre à ce moment-là. Et puis il y avait aussi cette idée, finalement, qui, on l'a dit un peu en introduction, Christophe l'a dit un peu en introduction, finalement que le capitalisme était en train de perdre tout adversaire, toute alternative. Alors bien sûr, une alternative qui n'avait pas fonctionné, mais qui pouvait quand même exercer une certaine pression. Et donc du coup, ça interrogeait. Qu'est-ce que serait qu'un capitalisme sans adversaire, sans alternative ? Donc j'étais plutôt, moi, du côté de l'inquiétude que de la joie et des interrogations intellectuelles.
Vous étiez inquiet.
Non, oui, c'est la grosse inquiétude. Berlin, c'est ça. Et Pierre Grosser, vous, inquiet ou la joie tumultueuse ?
Alors, il y avait plusieurs choses. D'abord, je commençais justement, moi, enseigner à Sciences Po, et donc ça n'arrêtait pas les commentaires de tout ce qui se passait pendant cet automne 89. Ensuite, personnellement, ma fille est née le 27 novembre 89, donc j'avais la tête un tout petit peu
ailleurs.
Ouais. Voilà, et puis bah, familialement, mon père s'est consacré à l'Allemagne.
À Fred Grosser.
Voilà, à peu près tout le temps. Et donc, pour lui, la RDA était un autre monde et on avait l'impression qu'il n'y aurait jamais d'unification. Et donc, il a été amené en moto pendant un cours à Sciences Po pour aller parler à Antenne 2, je crois que ça s'appelait à l'époque. Et d'ailleurs, de l'imaginer sur une moto, c'était déjà quelque chose d'assez intéressant. Mais ce qui est assez amusant, c'est que depuis, tout le monde dit qu'il était dans cet amphi, et j'ai l'impression qu'il y avait 500 000 personnes dans cet amphithéâtre de Sciences Po, disant « Je me souviens de l'annonce que le directeur de Sciences Po rentrant dans l'amphithéâtre et disant « Le mur de Berlin est tombé ».
Mais il y a une phrase de Jean Boissonnat que j'avais trouvée dans l'Express en 2009, qui est assez extraordinaire, parce qu'il dit « Pour contraindre l'Est au changement, l'Ouest n'a rien fait d'autre que d'exister ». Vous êtes d'accord, Pierre Grosser ?
Alors c'était au départ un des objectifs dans les à partir de 1989, ce qu'on appelait la théorie de l'aimant. C'est-à-dire que finalement, par la manière dont était la RFA, la RDA serait très largement attirée. Après, elle n'a pas fait qu'exister parce que d'abord, elle a prêté énormément d'argent à la RDA. La RDA a été obligée de se mettre quand même en partie à genoux et a commencé justement à changer ses réglementations de migration et de mobilité à partir de 82-83 parce que quand même, la RFA lui tordait le bras. Et donc, voilà, il y a quand même une interaction avec le reste de l'Europe et aussi le fait de circuler, ça a en partie changé la RDA puisque tous les Allemands de l'Est n'étaient pas cachés derrière le mur. Au contraire, il y en a beaucoup qui ont commencé à circuler et ça s'est énormément accéléré à partir de 1986. Et je crois que ça, c'est très important parce que aussi, d'ailleurs, les réactions un peu négatives des Allemands de l'Ouest à l'égard des Allemands de l'Est, ça a commencé avant même la chute du mur à cause de cet afflux de population.
Alors, il y a eu un moment qui était assez fort et très intéressant. C'était en 89, juste avant que le mur tombe et puis dans les mois qui ont suivi le mur, où les gens en RDA ont pensé pour beaucoup d'entre eux que la RDA allait continuer mais qu'elle allait se démocratiser. Et donc, ça aurait été à ce moment-là une espèce de régime socialiste démocratique, on pourrait dire.
Alors
et
qu'on s'est débarrassé de la RDA, tout simplement.
En fait, elle a été avalée par la RFA, Nicolas Hoffenstadt.
Oui, tout à fait. Il y a deux moments à rappeler. C'est qu'évidemment, on voit les aspects gris, sombres et oppressifs du régime à juste titre, mais que pour beaucoup d'Allemands de l'Est, d'abord, lorsque le régime s'est construit dans les années 50 et même jusque dans les années 80, il y avait l'idée quand même de faire une autre Allemagne. Alors, cette autre Allemagne, elle devait être comment ? Elle devait être démocratique, elle devait être antifasciste, elle devait être pacifique, elle devait être solidaire, donc une Allemagne idéale. Et cette idée, évidemment, s'est abîmée dans la réalité, on le sait bien, mais pour beaucoup d'Allemands, de citoyens ordinaires, il y avait encore cette idée dans les années 80 chez certains, on va encore essayer un petit peu. Donc il faut imaginer, bien sûr, il y a le régime, mais il y a aussi tous ces citoyens ordinaires d'Allemagne de l'Est qui avaient investi. Et c'est effectivement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'au moment où les choses ont commencé à évoluer, on voyait bien que ça bougeait, il y a eu cette idée d'une troisième voie. C'est le terme qu'on a donné, c'est-à-dire l'idée de dire on va en quelque sorte libéraliser, démocratiser l'Allemagne de l'Est, on va enlever la répression, la surveillance permanente, etc. Mais on va garder tous les aspects sociaux du régime, la protection sociale, le droit au travail, le travail des femmes, la santé gratuite. Et donc, on va faire un peu un socialisme à visage humain. Et donc, il y a eu beaucoup cet espoir en 89, un espoir qui finalement n'a pas fonctionné et que d'ailleurs certains gardent encore en mémoire. Quand vous interrogez les Allemands de l'Est, il y a certains qui disaient « j'avais rêvé d'une RDA, mais une autre RDA ». Évidemment, pas celle qui existait, celle qu'on voudrait avoir eue à l'époque.
Mais c'est la volonté d'Helmut Kohl aussi d'aller très vite, d'absorber la RDA de manière très rapide. De créer une grande Allemagne, c'était son ambition depuis très longtemps, puisqu'il négocie depuis déjà quelques années, Pierre Grosser le disait, avec la RDA, financièrement pour la racheter en quelque sorte. Donc il voulait faire un grand pays.
Oui, et il ne voulait pas justement que cette voie socialiste d'une autre Allemagne. Donc effectivement, la stratégie a été d'éliminer toute possibilité d'une Allemagne socialiste sous d'autres formes que celle qu'elle était dans ces années-là, absolument.
Alors, ce n'est pas à Berlin, mais à Los Angeles qu'est né le rock glam et énervé de Starcrawler. C'est pour vous, Christophe Bourseiller.
Merci.
No More Pennies, Starcrawler, porté par la voix de leur chanteuse Arrow de Wild. La programmation Déflation de Jean-Baptiste Audibert.
Je travaillais chez moi et je ne savais pas ce qui se passait. Quand j'allumais la télévision et que j'ai vu la barrière du poste frontière s'ouvrir, j'ai cru que c'était une fiction.
Le nouveau rendez-vous.
Je me suis demandé, mais comment ont-ils fait pour réaliser ce film?
Vous ne pouvez pas vous imaginer pour un aimant de l'Ouest, qu'est-ce que ça veut dire d'aller Brandenburg Tour, d'y passer et de le toucher.
Laurent Goumard.
Cette nuit-là, on ne savait pas ce qui allait se passer. On se demandait si le régime ne laissait pas partir les mauvais socialistes, comme une expulsion déguisée, et s'il n'allait pas fermer la porte derrière nous.
Pour moi, c'était surtout la liberté d'avoir la possibilité de lire tous les livres que je veux lire, de dire toutes les choses que je veux dire.
J'ai eu le sentiment d'une grande famille qui se retrouvait grâce à cette réunification. Et comme vous pouvez l'entendre, j'en ai encore la voix qui tremble.
Sur France Inter.
La chute du mur de Berlin, bientôt 30 ans. Bilan et radio nostalgie un peu ce soir. On en parle avec nos invités, des historiens, des journalistes. Nicolas Offenstadt, Bernard Thomasson, Pierre Grosser et une chanteuse, Dorothée Goll. Pierre Grosser, je vous rends la parole parce que vous vouliez réagir tout à l'heure sur le rêve de démocratie de la RDA. Un rêve qui a été anéanti puisqu'ils ont été purement et simplement complètement rayés en fait.
Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer et faire la lecture rétrospective. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'intellectuels et de militants qui voulaient améliorer l'existant, qui voulaient réformer la RDA, qui n'étaient pas du tout tentés par ce qui existait de l'autre côté, tout en noircissant un petit peu d'ailleurs cette RFA. Il faut bien voir d'une part que vous avez des migrations importantes, hein, des Allemands qui sont partis et beaucoup de jeunes qui sont partis dans les années 80, notamment des jeunes éduqués, mais de plus en plus aussi des jeunes qui étaient pharmaciens, pompiers, conducteurs de poids lourds, etc., etc. Donc voilà, ça s'est démocratisé et c'est vraiment les jeunes qui sont partis. Ce qui est quand même un peu inquiétant, si vous voulez, pour ce type de pays. Deuxième chose, les mouvements un peu dissidents sont en fait arrivés beaucoup plus tardivement que dans les autres pays. Et donc, il faut attendre vraiment fin 88, début 89 pour avoir cette idée d'améliorer la RDA.
C'était lié à la nature totalitaire de la RDA ou c'était
non,
parce qu'ils étaient heureux?
Je pense qu'il y avait des deux. Hein. Il faut toujours considérer qu'il y a des gens qui étaient tout à fait heureux parce qu'ils vivaient une vie familiale. Moi, je connaissais un peu le monde du sport, de la RDA. Il y en avait qui étaient très contents de faire du sport, pouvoir voyager à l'intérieur de la RDA. Donc, il faut pas évidemment noircir ce régime-là. Mais si on commence à faire des comparaisons, ça nous amène aussi à des comparaisons de gens qui est heureux sous des régimes totalitaires. Donc ça peut être aussi un tout petit peu problématique avec des espèces de nostalgie à quand on était jeune, on s'amusait bien et on savait pas ce qui se passait autour. Et puis le troisième élément, c'est que cette troisième voie a pas pesé très lourd au lendemain de la chute du mur, dans les discussions dans les discussions d'unification et d'ailleurs dans les élections de mars 90, c'est-à-dire très rapidement, ça fait 3% aux élections. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'est sur les ambitions de Kohl. Il ne faut pas exagérer, il ne voulait pas faire une grosse Allemagne. Il a été surpris, comme tout le monde, par ce qui s'est passé avec le mur. Et finalement, il a mis du temps, d'ailleurs, à penser que l'unification serait vite. Il pensait à 10 ans, puis ça a été 5 ans, puis 3 ans, puis encore plus rapidement. Et ensuite, l'idée qu'il avait déjà cet objectif, en tout cas d'acheter, je ne pense pas. Au contraire, ce qu'on a dit pendant très très longtemps, on a reproché aux Allemands de l'Ouest, d'ailleurs, c'est qu'avec justement tout cet argent qui allait à l'Est, ils ont finalement mis sous perfusion ce régime, qui était un régime autoritaire et un régime quand même très critiqué internationalement, on l'a mis sous perfusion, il a duré plus longtemps. Et donc, on a finalement reproché et aux socialistes, et même après, à la CDU, d'avoir continué finalement à le mettre sous perfusion.
Qu'est-ce que vous pensez?
Alors, Nicolas Offenstadt, vous avez une particularité, c'est que vous hantez, vous recherchez partout les restes de, justement, cette Allemagne de l'Est dont parlait Pierre Grosser. Et alors, vous vous inscrivez dans un courant, c'est tout à fait surprenant. Votre dernier livre s'appelle Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés. Et vous vous inscrivez...
Plus de 200 lieux abandonnés, interdits.
Ah oui, c'est un livre très beau, avec des photos absolument magnifiques. Ouais. Et vous vous inscrivez dans un mouvement international un peu de contre-culture qui s'appelle Urbex. Alors, est-ce que vous pouvez en deux mots nous dire ce que c'est qu'Urbex?
Oui, je vais vous dire, mais je vais juste répondre à Pierre Grosser, avec qui j'ai beaucoup d'estime, on a souvent l'occasion de discuter, notamment par les réseaux sociaux. Attention, en RDA, cette opposition, c'est vrai, elle avait des spécificités. Une de ces spécificités, je trouve passionnant, c'est que beaucoup de gens ne cherchaient pas un capitalisme libéral. Ils étaient opposants, mais ils étaient des opposants de gauche, en réalité. Ils voulaient une Allemagne plus pacifiste, c'était des Verts, c'est des gens qui luttaient pour l'environnement, qui luttaient pour la paix, qui luttaient parfois avec des horizons chrétiens.
Qui étaient arrêtés pour ça, d'ailleurs.
Voilà, et qui étaient arrêtés pour ça. Mais donc, il faut pas avoir l'image
l'idée d'une opposition à RDA qui voudrait le modèle de la RFA, etc. C'était des gens qui avaient aussi une vision du monde critique et de gauche, qui est évidemment pas celle du régime. Et puis l'opposition, on la trouve parfois aussi chez les gens ordinaires, hein, qui, vous avez des gens ordinaires qui étaient au parti, qui étaient dans l'entreprise, qui disaient le parti pour nous est un obstacle, on veut le réformer de l'intérieur. Donc c'était un monde très compliqué, cette opposition. Alors maintenant j'en viens à l'urbex, puisque c'est quand même une... Alors, c'est, donc cette exploration urbaine, en fait, elle est née chez moi du paysage contemporain de l'Allemagne de l'Est. Parce que quand on se promène aujourd'hui, mais c'était déjà le cas dans les années 90 en Allemagne de l'Est, on ne peut qu'être frappé par les abandons de ce pays, la RDA. Vous voyez partout, y compris à Berlin, y compris au centre de Berlin, j'y étais encore ce week-end et ça me frappait, des maisons de la culture de l'époque de la RDA, des maisons de la culture des entreprises, vous y trouvez des immeubles abandonnés et puis des complexes industriels, parfois 20, 30 bâtiments. Et du coup, j'ai été très étonné, moi, de voir dans une démocratie libérale, contemporaine, riche, autant de sites complètement à l'abandon. Et donc, du coup, j'ai commencé à les visiter.
La maison de l'unité.
Voilà, des maisons de l'amitié, évidemment, germano-soviétique, tout ce qui rappelait, hein, cette histoire de l'Est. Et en les visitant, c'est ce qui m'a le plus frappé, qui fait que j'ai fait vraiment de l'urbex de manière systématique. C'est
donc, l'urbex qui veut dire exploration urbaine, je le dis à votre place, donc, hein, bien sûr, ce mouvement international qui va explorer les ruines.
Et il a deux caractéristiques, c'est intéressant, avant que je précise ce que j'en fais pour la RDA. L'urbex agit sans légalité. C'est-à-dire qu'on va visiter des lieux abandonnés, vides, qui sont interdits, ou en tous les cas, on connaît pas le statut légal de ces abandons. Non, parfois ils sont tout à fait délaissés, mais parfois il peut y avoir un propriétaire qui pourrait vous faire arrêter. Moi j'ai parfois eu des petits soucis. Et deuxièmement, c'est un mouvement qui a un but non lucratif. On va pas dans l'urbex pour ramener du fer, du bronze, ou pour s'en servir, hein, comme un squat. Ce serait pas de l'urbex. On y va soit pour prendre des photos, soit pour visiter, soit pour s'intéresser au patrimoine et le recenser. Donc c'est un but non lucratif et en tous les cas illégal. Effectivement, c'est un mouvement international. Vous avez des gens qui font de l'urbex à Détroit, qui peuvent en faire partout où il y a des ruines, partout où il y a des abandons. Mais ce qui m'a frappé en RDA, c'est peut-être deux choses par rapport au mouvement international de l'urbex. C'est d'abord que c'est que tout le pays est visitable à travers ces ruines. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous avez des zones, c'est concentré dans les zones de désindustrialisation ou des zones qui ont subi des chocs économiques et sociaux particuliers. C'est la même chose aux États-Unis. Dans toute l'ex-Allemagne de l'Est, hein, depuis Rostock jusqu'à la Saxe, vous avez un monde abandonné, en partie celui de la RDA. Et à l'intérieur, et c'est ça qui rend l'urbex en Allemagne de l'Est passionnant, on trouve beaucoup de choses. On trouve des anciennes machines, on trouve beaucoup de productions de l'Allemagne de l'Est, des téléphones,
très
par
bon
exemple.
Téléphone.
Et ce qui anime historien, et ça vous étonnera pas, moi ce qui me touche le plus et ce qui fait que je continue sans cesse, c'est que je trouve des tonnes d'archives. C'est-à-dire que les gens sont partis en fermant leurs entreprises, en fermant leurs maisons de la culture, mais en laissant les archives, qui sont parfois très riches. On y trouve les archives du parti à l'intérieur de l'entreprise, on y trouve des dossiers personnels, et comme historien je trouve ça très troublant d'être dans un lieu qui est complètement abandonné, qui est vide, que vous pouvez parcourir, et de tomber sur l'histoire du lieu. Et parfois même, ce qui est exceptionnel dans certains cas, c'est que je trouve des documents qui me permettent de visiter le lieu autrement. Et dans un atelier ferroviaire, par exemple, à Güstrow, j'ai trouvé tout le plan, qui était à l'époque secret, de l'atelier ferroviaire que j'ai visité grâce au plan ramassé par terre. Vous voyez, l'urbex, c'est assez étonnant comme visite.
Bernard Thomasson, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la RDA, en fait?
Ce que dit Nicolas est intéressant parce que ça prouve deux choses. Ça prouve que, d'une part, à l'époque de la RDA, la totalité du territoire était portée par l'État. Donc il n'y avait pas d'endroit abandonné, d'endroit isolé. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les gens étaient accompagnés, aidés. Tout le monde avait des crèches pour les familles.
Mais vous êtes pas en train d'un peu de mythifier l'Allemagne de l'Est, d'en faire une sorte de pays merveilleux, de cocagne.
On n'a pas dit ça.
Non, l'Allemagne de l'Est avait ses côtés noirs. On les connaît tous. Mais pour les Allemands de l'Est, il y avait aussi des choses qui pouvaient apparaître positives. Moi, j'ai rencontré des gens aujourd'hui en Allemagne de, enfin dans l'ex-Berlin Est. Excusez-moi, c'est lapsus, mais ça prouve aussi que la différence existe encore aujourd'hui, dans les états d'esprit en tout cas, et qui m'ont dit, je ne sais pas ce que ça serait aujourd'hui la RDA, mon ancien pays, mais ce que je sais, c'est que c'est très difficile en RFA. Les conditions de vie sont compliquées, on ne gagne pas suffisamment d'argent, on est des petites gens, on ne s'occupe pas de nous, etc. Donc, à l'époque de la RDA, il y avait une certaine reconnaissance de chacun et de chacune, et Nicolas le disait, sur l'ensemble du territoire. La deuxième chose qui est intéressante dans ce qu'il dit, c'est ce que ça dénote aujourd'hui politiquement, c'est que ces régions-là se sentent à l'abandon, non seulement de manière, j'allais dire, physique et industrielle, mais aussi
culturellement à l'abandon.
Culturel et politiquement à l'abandon.
Ils sont restés les parents pauvres de l'Allemagne d'aujourd'hui.
D'où les votes extrémistes que l'on connaît dans ces régions.
On a trouvé
le Brandenburg et le Saxe qui sont des...
Il y a une réalité des différences
entre le côté ouest et le côté est.
Dorothée Gohl, vous êtes une Allemande de l'Ouest. Vous avez, vous aussi, cette un peu... En les entendre, on se dit finalement, l'Allemagne de l'Est, c'était... Bon, d'accord, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de s'exprimer. s'exprimer, on pouvait pas quitter le pays, il y avait la Stasi qui vous surveillait de toute la journée, mais c'était quand même assez agréable parce qu'on pouvait travailler, on n'y avait pas de chômage.
Vous êtes d'accord? Ce que disent les Allemands de l'Est même, certains d'entre eux.
Je ne suis pas en train de, enfin, je vais certainement pas idéaliser la RDA. Non, je suis pas d'accord avec l'ostalgie, mais je pense qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, il faut constater que c'était le cas, que les gens avaient un travail, qu'ils avaient un logement, qu'ils avaient une forme d'assurance des besoins de base. Et pourquoi nier ça? Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on est en sympathie avec ce système.
C'est un des aspects finalement toujours de l'ambivalence de ce régime et de la mémoire qu'on a, parce que par exemple aussi on peut considérer que les Allemands de l'Est ont été à la pointe de l'anti-impérialisme, ont soutenu des causes à travers le monde tout à fait positives. Aujourd'hui on a récupéré entre guillemets Mandela, mais enfin pendant très longtemps en Afrique du Sud on a plutôt combattu l'ANC et soutenu le régime de l'apartheid, on a fait la guerre au Vietnam, etc. Donc on peut considérer qu'ils étaient dans un sens dans le sens de l'histoire.
Alors, quand on voit bien le cinéma, d'ailleurs, on a cette impression-là, parce que vous avez un film, par exemple, comme Goodbye Lénine, qui est relativement sympathique et un peu d'ostalgie, pour ne pas dire nostalgie. C'est pas Radio Nostalgie, c'est Radio Ostalgie.
J'ai bien compris,
ce soir,
je vais corriger.
Et puis, vous avez La Vie des Autres, qui vous présente une sorte d'enfer orwellien, un totalitarisme orwellien.
Tout à fait, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi, la RDA, dans ses coopérations avec un certain nombre de ces pays qui ont émergé, justement, de ces luttes de libération nationale, c'est ceux aussi qui donnaient les techniques de surveillance, les techniques aussi d'interrogatoire, et on voit à peu près ce que ça veut dire. Donc, que ça soit au Vietnam, que ça soit en Angola, que ça soit dans un certain nombre de pays. Et donc, voilà, il y a un aspect qui est quand même assez ambigu. On peut tout à fait considérer qu'ils allaient dans le sens de l'histoire, mais d'un autre côté, ils ont renforcé les dictatures.
Alors, juste avant de partir dans la troisième partie où on va énoncer ce qu'il en est aujourd'hui de l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est quoi cette histoire de complot qui vous a particulièrement, intéressé,
En lisant le livre de Pierre Grosser, 1989, l'année où le monde a basculé, et principalement la postface, écrite plus récemment pour justement cette réédition, vous évoquez ce fantasme qui est aujourd'hui véhiculé à l'Est, de dire c'est la chute de Erich Honecker, c'était un complot. Alors est-ce que c'était un complot, Pierre Grosser?
Non, ça fait partie encore de toutes ces idées qu'on aurait pu effectivement, si on avait écarté Honecker, permis d'avoir un régime beaucoup plus sympathique comme certains ici le souhaitent rétrospectivement. Ce qui est vrai, il y a cette idée aussi que certains ont véhiculé, que c'était la Stasi avec Marcus Wolf qui a voulu, parce qu'il était mécontent de l'alliance objective entre la police est-allemande et les mouvements de libération nationale palestiniens diverses et variées, les terroristes palestiniens, qu'on aurait voulu aussi écarter Honecker. Enfin voilà, vous avez un certain nombre de théories de ce type-là.
L'Allemagne de l'Est était un sanctuaire pour les mouvements terroristes. Je pense par exemple à la Rotterdamer Fraction, les mouvements palestiniens également.
Les pays de l'Est ont été... Alors il y en a qui effectivement soutenaient, il y en a qui étaient...
On était en guerre froide, tout ce qui pouvait toucher l'adversaire, c'était bon. Et à partir du moment où les
Il y avait aussi la solidarité idéologique avec les mouvements palestiniens contre l'impérialisme israélien, comme on expliquait à l'époque. Il y avait sans doute un peu des deux. Il ne faut pas exagérer non plus l'idée qu'ils les ont armés, qu'ils les ont préparés, etc., etc.
Non, mais c'était quand même à leur côté.
Non, mais il y avait aussi, on a par exemple des archives tchèques qui le montrent avec le personnage de Carlos. C'est qu'en fait, on essayait de pas être trop, d'avoir trop de problèmes avec Carlos pour que Carlos ne fasse pas des bêtises chez soi. Et comme nous, on sait qu'on a eu aussi du côté Abou Nidal et d'autres un certain nombre d'accords, j'allais dire tacites. Voilà, vous arrêtez de faire des choses chez moi et on vous embête pas. Voilà, je pense que ça s'est fait des deux côtés. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de sympathie pour les mouvements révolutionnaires. C'était l'ADN du régime. Il faut être clair.
Bernard Thomasson.
Oui, non, loin de moi l'idée de dire que je regrette la RDA telle qu'elle était à l'époque. J'ai vu suffisamment mes amis souffrir de ne pas pouvoir aller voir leurs proches, leurs familles, leurs parents. Chaque fois que j'allais du côté de Berlin-Est, il y a des choses qui me paraissaient tellement aberrantes et incompréhensibles. Alors moi, j'étais pas dans les arcanes de savoir des choses de pouvoir, mais rien que le fait d'aller dans un restaurant vide, d'attendre une demi-heure ou une heure pour manger, on comprend pas pourquoi. Enfin, il y a des choses d'attendre pendant des années pour avoir une télévision, pour avoir une voiture. L'ami de mon ami Ruth Fritz a une voiture au bout de 10 ans. Ensuite, il est parti à Dresden. Enfin, donc non, loin de moi l'idée de dire
cet élément d'attraction dont vous parliez tout à l'heure.
Ah oui, c'est ça.
Aussi.
Alors, avant de repartir en Allemagne, tout de suite, je vous propose de retrouver un Suisse. C'est le plus suisse de nos Camarguais. Il s'appelle Stéphane Escher. Il vient de publier 15 chansons inédites et sans domicile fixe. Oui, problème de label. Dont ce titre, en suisse allemand, bien sûr.
« de gam o so gang aber gang net so Leben ist kurz für so zu gehen gib mir wenigstens tang aber gang net so für so zu gehen wie der Geist sind wir zu lang binnenan gang net so gang net so das Leben ist kurz für so zu gehen. Es Kapitel vorbei, aber gang nicht so. Wir sind schon zu alt für so zu gehen. Ich weiss, das wär's gewesen, aber gang nicht so. Sag mir tschau, wenn ein Freund oder blieb noch ein klein. Gang nicht so, gang nicht so. Wir sind schon zu alt für so zu gehen. Gang ein fingsiges Zeit, aber gang nicht so. Wir haben uns zu gehen, für so zu gehen. Gang ein fingsiges so weit, aber gang nicht so. Wie der Gang muss so gehen, aber gang nicht im Streit. Gang nicht so, nein, gang nicht so. Wir haben uns zu gehen, für so zu gehen.
Rendez-vous. Décidément, ça va de plus en plus vite en Allemagne de l'Est. J'apprends à l'instant que tous les Allemands de l'Est qui le désirent sont officiellement autorisés à passer en Allemagne fédérale.
France Inter.
Alors si cette nouvelle était confirmée, ce serait quasiment la fin du mur de Berlin.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 novembre 89, aujourd'hui.
Ce qui se passe en ce moment à Berlin est incroyable.
Retenons bien cette date.
Le nouveau rendez-vous.
Le mur de Berlin est toujours là. Mais d'une certaine manière, il n'existe plus.
Il y a 28 ans qu'il existait et personne ne nous a dit, aucun spécialiste ne nous avait prédit que cela pouvait changer un jour.
Laurent Dumas.
Le 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin. Le 14 octobre 2019, on en reparle avec nos invités. Nicolas Offenstadt, historien. Bernard Thomasson, écrivain et journaliste ici à France Info. Pierre Grosser, historien. Et Dorothée Gaulle, chanteuse. Vous vouliez reprendre la main. On parle de l'Allemagne d'aujourd'hui, justement. Qu'est-ce qu'elle doit à cette chute du mur?
Bah oui, c'est ça. Où elle en est, où l'Allemagne d'aujourd'hui? Dorothée Gaulle, pourquoi vous vivez en France? Pourquoi vous n'avez pas... Après tout, le temps a passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Allemagne qui se construit sous nos yeux dans un monde multipolaire.
Et sans vous?
Je suis partie avant la réunification, donc
ouais. Il était hors de question de revenir.
Il était hors après. De
vous
question
voulez pas
de revenir.
Vous réunifier
la seule
avec
chose,
vous-même.
La seule chose qui à un moment donné m'a vraiment effleurée, je me suis dit mais tiens, il y a tout l'Est qui s'est ouvert, il y a tout un monde, toute une part d'Europe qui est devenue tout d'un coup accessible. Là, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous à l'Ouest? Mais bon, voilà, mes choix étaient faits.
Et vous n'avez pas eu envie d'aller vous installer à Dresde ou à Leipzig?
Non, franchement non.
Et alors, comment regardez aujourd'hui justement l'évolution de l'Allemagne avec qu'est-ce qu'elle doit aujourd'hui à cette chute du mur, selon vous?
Quelle question?
Ouais.
Bah,
une question de thèse.
on a hérité, par exemple, de l'AFD entre-temps, hein, et je pense
alors
que
c'est ça, en fait,
le
hein,
fait,
hein.
Le fait que les Allemands de l'Est n'ont pas été écoutés après cette chute, je pense, est une des raisons que les partis radicaux ont beaucoup beaucoup gagné. Hein. Enfin, il y a les gauches, il y a la Die Linke, il y a l'AFD, et ce n'est certainement pas étranger à ce fait.
Qu'est-ce que vous pensez?
L'extrême droite semble aujourd'hui majoritaire dans les Länder de l'Est. Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que c'est vrai que Nicolas Offenstadt, c'est vrai que les Allemands de l'Est ont été les laissés pour compte? Est-ce qu'ils n'ont pas profité au contraire d'une dynamique économique apportée par l'Ouest?
Mais c'est ce qui est très intéressant dans notre discussion, c'est qu'en fait les choses sont ambiguës. Pierre disait il y en a qui regrettent.
Pierre Grosser,
ouais. Oui, pardon. Et donc en réalité la mémoire des Allemands de l'Est, souvent, moi j'en ai interrogé des centaines, je continue à le faire, très souvent elle est ambiguë, c'est-à-dire que c'est un mélange en doses variables. Il y a toujours cette idée, on a quitté un régime oppressif, on a quitté le manque de liberté, mais on a aussi perdu tout un ensemble de protection sociale, du droit au travail, qui n'est pas un droit négligeable malgré tout, les chômeurs le savent bien, donc il ne faut pas non plus prendre ça par-dessus la jambe. Quand on a perdu le droit au travail, quand on a perdu la santé gratuite, ça ne compense pas par le droit d'aller passer ses vacances à l'étranger, forcément pour tout le monde, surtout pour les revenus modestes. Moi, il y en a un dans un train qui m'a raconté, j'ai le droit de voyager, mais j'en ai pas les moyens, donc ça me fait une belle jambe. Donc évidemment, c'est qu'un discours parmi d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que les mémoires sont ambiguës. Alors comment ça s'est traduit politiquement, cette ambiguïté des mémoires? C'est qu'il faut le rappeler, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? on a liquidé toute l'économie de la RDA. Hein. C'est-à-dire, soit on a privatisé, soit on a fermé, soit... Et donc, du coup, ça a été une montée en puissance du chômage considérable. Il y a 500 000 chômeurs dès l'automne 1990. Il y a 20% de chômage au plus haut en Allemagne de l'Est en 2005. Donc, pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui avaient connu le plein emploi, qui avaient été protégés avec tous les défauts qu'on connaît dans leur entreprise, mais en gros qui pouvaient aller à l'opéra de Rennes, justement, que vous évoquiez, c'était gratuit ou quasiment, qui avaient l'habitude de fêter tout ça avec leurs camarades, d'aller à la pêche, de faire des choses, de pas payer pour la santé, d'avoir une école qui fonctionnait comme elle fonctionnait, bref, qui avaient un monde assez protégé. Ils se sont retrouvés sans rien. Ils se sont retrouvés avec des formations professionnalisantes qui marchaient pas, avec du chômage partiel. Pratiquement une proportion considérable a changé d'emploi après 89. Et donc tout ce monde-là, évidemment, il a souffert et il a gardé des traces de cette souffrance. Et elles émergent. Et j'ajoute en plus qu'il y a eu aussi ce sentiment d'avoir été en partie complètement dominé par les gens de l'Ouest. Parce qu'il n'y a pas d'élite est-allemande dans le domaine culturel. Il n'y en a pas dans le domaine économique. Hein. C'est les Allemands de l'Ouest qui dominent. Le seul endroit où il y a un peu des élites de l'Est, c'est dans les assemblées territoriales, dans les élections locales. Mais pour tout ce qui est culture, économie, politique globale, les Allemands de l'Est ont le sentiment, c'est l'expression qu'ils emploient, d'être des citoyens de seconde classe. Et ça se marque encore aujourd'hui par plusieurs choses. Le taux de chômage est plus fort à l'Est. Les salaires sont inférieurs à l'Est, etc., etc. Donc vous voyez, il y a encore
donc
deux Allemagnes.
Donc le mur existe en fait. D'une certaine façon, le mur existe encore.
Oui, il y a une expression en Allemagne, on dit le mur est encore dans les têtes. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été faites. Bien sûr, les centres-villes ont été rénovés. Bien sûr qu'il y a énormément d'argent qui a coulé à l'Est. Mais il y a aussi cet aspect-là, hein, de, en quelque sorte, de délégitimation sociale et économique de tout un monde.
Bernard Thomasson.
Ce que dit Nicolas est tout à fait clair, j'aurais rien à rajouter là-dessus, simplement ça veut dire que l'Allemagne a encore un long chemin à parcourir pour arriver à être vraiment une Allemagne unifiée où chacun se sente bien et à sa place.
Et ceux qui passent du communisme à l'extrême droite, Pierre Grosser,
d'un extrême à l'autre.
Une des interprétations qui est donnée, c'est la différence des mémoires par exemple du nazisme. C'est-à-dire que à l'Ouest, il y a eu quand même un gros travail qui a été fait, alors la question des épurations... un peu sélective est une vieille histoire, mais à côté de ça, depuis surtout les années 70, il y a eu un énorme travail qui a été fait. Alors qu'à l'Est, on considérait que de toute façon, comme c'était la classe ouvrière qui était au pouvoir et qu'elle avait résisté, ou en tout cas, elle ne pouvait pas avoir été nazie, on avait assez peu, finalement, de réflexion sur les années d'extrême droite. Donc aujourd'hui, évidemment, le rapport à l'extrême droite n'est pas le même. Alors c'est pas la seule explication, évidemment, mais il faut bien penser qu'il y a à la fois de la demande, mais aussi de l'offre politique, et cette offre, elle fonctionne correctement aussi.
Il ne faut pas trop remonter à la RDA, parce que les jeunes générations n'ont pas forcément connu la RDA, n'ont pas été socialisées non plus pour les plus jeunes électeurs dans ce monde-là. Et surtout, moi, je pense que ce qui est un des éléments cruciaux pour comprendre ce vote AFD, bien sûr, il y a toujours plusieurs causes, c'est les années 90. Pour nous, je parlais avec un écrivain il n'y a pas longtemps qui disait finalement, pour nous Français, les années 90, ça ne signifie pas grand-chose. Bon, il s'est passé des choses. Mais les années 90, hein, c'est un concept en soi pour les Allemands de l'Est. C'est ce monde où tout disparaît, leur entreprise, leur maison de la culture, pour certains, le travail, l'emploi. Et donc, du coup, je pense que c'est plutôt
on
en regardant...
On n'avait pas cette impression-là. Moi, je suis allé à Dresde en 1995, si je me souviens
pour
bien.
Pour aller voir encore un groupe de pop-rock?
Non, je suis allé à un colloque. C'était beaucoup plus sérieux. Bon, bref. Et je me souviens que Dresde n'était qu'une gigantesque galerie marchande. C'est-à-dire qu'il y avait partout des McDonald's, des Burger King, évidemment, qui s'étaient des fast-food, qui s'étaient montés. Et il y avait des galeries marchandes gigantesques.
Oui, c'est ce qui posait problème aussi,
avec une espèce
aussi,
de rêve de consommation qui s'était posé comme ça au milieu de la ville.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, l'extrême droite, attention, elle n'est pas majoritaire, hein. Elle fait plus de 20% dans un certain nombre de Länder. Donc ça ne veut pas du tout dire que tous les gens sont tristes de la réunification. Ça ne veut pas du tout dire non plus qu'il n'y en a pas qui ont profité. Mais je dis qu'il reste toute une partie de la population qui est en partie celle qui vote AFD, même si c'est jamais une équivalent, qui a quand même souffert dans ces années-là et que cette souffrance, elle s'exprime aussi électoralement. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas du tout dire, évidemment, qu'il n'y a pas eu énormément de choses qui ont changé et aussi pour certains positivement. Il y a plein d'Allemands de l'Est qui ont pu connaître une nouvelle vie aussi après 80. Il ne faut pas voir les choses négativement, évidemment, seulement.
Je pense qu'il faut aussi remettre en contexte que si tout ça s'est passé dans toute l'Europe de l'Est. C'est-à-dire que les années 90, que ce soit en Russie, en Pologne, où la thérapie de choc a été beaucoup plus violente qu'elle ne l'a été en RDA, en Slovaquie, où là aussi ça a été une thérapie de choc assez violente, vous avez eu quand même des bouleversements sociaux et c'est vrai que les transformations politiques que l'on voit aujourd'hui sont en partie liées à ces bouleversements sociaux des années 1990. Mais je crois qu'il ne faut pas être trop déterministe non plus pour expliquer la montée de l'AFD.
Alors justement, à propos de ces changements politiques et sociaux, sociaux, on a lu avec Christophe Boursier, quand on a préparé l'émission, un article de Slate où on nous explique que l'euro, la Chine, la faiblesse de l'Europe et le rejet de l'immigration, ce serait la faute du chute du mur. Par exemple, que la Chine aujourd'hui serait la nouvelle URSS. L'impact de la Chine sur les Européens, ce serait sur la puissance économique.
Alors moi je suis pas spécialiste de géopolitique mondiale, mais je sais pas si on peut comparer, parce que comme le disaient Nicolas et Pierre tout à l'heure, il y avait vraiment à l'époque, et Christophe, il y avait deux mondes bien structurés. Ouais. Aujourd'hui on est dans un multipolarisme, enfin comment on peut dire, mais la Chine est un poids lourd dans ce monde-là, mais n'est pas le seul. Il y a les États-Unis aussi de l'autre côté, il y a le Brésil qui intervient également. Donc je sais pas si on peut dire que la chute du mur a amené la dichotomie entre la Chine et le reste du monde. Ça serait à mon avis un peu simplifié.
Ce qui est sûr, c'est que la réunification allemande a permis à l'Allemagne de peser d'un poids plus fort sur l'Europe, puisqu'après tout, elle est devenue une super puissance européenne et peut-être le moteur de l'Union européenne aujourd'hui. C'est pas le cas, Pierre Grosser?
Oui, non, c'est-à-dire qu'elle s'est quand même, il faut bien voir qu'elle a été encadrée. Tout le processus de réunification européenne a été totalement encadré dans le cadre, dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Ça a été tout le deal. Même si c'est pas, il faut pas imaginer donnant entre Kohl et Mitterrand, mais c'était trop le deal, c'est-à-dire l'impression quand même que cette puissance allemande pourrait poser problème, et donc on l'encadre avec l'Union européenne et l'OTAN. Et à côté de ça, si vous voulez, tous les discours pour dire voilà l'Allemagne unie va redevenir une grande puissance. On lui reproche essentiellement de ne pas vouloir être une grande puissance. Et les Français sont les premiers à lui reprocher ça, notamment en termes de politique extérieure. C'est-à-dire que on vient de parler de la Chine, j'ai pas très bien compris quel était le raisonnement, mais le problème de la Chine pour l'Allemagne, c'est que c'est l'Allemagne qui est le plus dépendante de la Chine pour son commerce, mais qu'elle ose
pas. C'est exactement ça. Ouais.
Voilà, oui, mais bon, je veux dire, c'est pas le premier partenaire non plus de comme l'était l'Union soviétique à l'époque. Et à l'époque, l'Allemagne de l'Est prétendait être l'avant-garde technologique pour l'Union soviétique, et là je pense pas que l'Allemagne soit encore tellement l'avant-garde technologique, sauf pour les machines-outils pour l'Allemagne. Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la question de la grande politique pour l'Allemagne, ça reste pour le moment essentiellement des questions commerciales. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on deal avec l'Allemagne, c'est la question du commerce. Toute la question avec l'Union soviétique, c'est très large. Enfin, la Russie, excusez-moi, la question du commerce. Et donc, on est quand même très largement en Allemagne prisonnier de cette priorité commerciale dans les questions diplomatiques. Et l'Allemagne ne pèse nulle part en termes géopolitiques. On le voit nulle part. Que ça soit en Afrique, c'est la France qui est leader et qui essaie d'entraîner l'Allemagne avec elle. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, on n'entend pas parler. Alors si, il y a des discours sur la Turquie, mais c'est plus à cause des questions de migration, et de Turcs ou de Syriens en Allemagne. Mais l'Allemagne n'agit pas en grande puissance. Et je vous dis, c'est plutôt un regret de la part de ses partenaires, ce qui est assez étonnant.
Dorothée Goll, vous avez quelle relation aujourd'hui, vous, avec votre pays, l'Allemagne? Vous qui êtes...
Très distante.
Très distante.
Mais je m'y intéresse toujours. Ce que je voudrais dire, pour tout à l'heure, quand même, en RDA, il n'y avait pas de travailleurs immigrés. Enfin, il y en avait, mais qui étaient renvoyés systématiquement au bout de 2, 3, 4 ans. Ils étaient formés, ils travaillaient, étaient renvoyés. Ils n'étaient jamais intégrés. Donc je pense, pour les mentalités, ça n'a pas été forcément aisé de se retrouver tout d'un coup dans un pays complètement sous l'influence de la mondialisation. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi la RDA est si...
C'est ambigu quand on alloue à la RDA, on dit bah oui, ils ont mal géré la mémoire antifasciste, effectivement, en attribuant à tout le monde en faire une forme de résistance idéale, avec peu d'étrangers, mais en même temps... Aujourd'hui, les héritiers de la RDA, ils prétendent qu'ils sont antifascistes, ils luttent contre l'AFD, parce qu'il y avait l'idée, à ceux qui sont les plus fidèles au Parti communiste et qui sont les plus fidèles au régime, ils sont absolument vent debout contre le fascisme que représente l'AFD. Donc il ne faut pas imaginer que c'est un héritage de la RDA. Ils ne voulaient pas ça. Alors du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, on peut dire, c'est à double tranchant l'argument de dire, oui, la mémoire a mal géré, en quelque sorte, les biographies familiales, parce que le discours officiel de la RDA, qui peut être d'ailleurs saoulait parfois les jeunes, c'était aussi l'antifascisme. Donc pourquoi est-ce que cet héritage-là ne serait pas aujourd'hui efficace pour lutter contre l'AFD? Vous voyez, c'est à double tranchant, l'argument.
Et sur le statut, justement, donc, des travailleurs émigrés dont parlait Dorothée...
Oui, alors ce qui était vrai, c'est en fait, la RDA avait un manque crucial de main-d'œuvre. Ça, c'est fondamental. Aussi bien pour le droit des femmes, qui n'était pas seulement de belles idées, c'est qu'on avait besoin du travail des femmes, on avait aussi besoin des Vietnamiens, des gens qui venaient de Mozambique. Et ils étaient sous contrat, c'est-à-dire c'était des contrats d'État, des pays amis, évidemment. Oui. Mais Vietnam, comme toujours, c'est ambigu. Si beaucoup étaient, effectivement, moi j'ai interrogé des travailleurs vietnamiens, ils se sentaient très en dehors parce qu'ils ne parlaient avec les Allemands qu'à travers travers des traducteurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un isolat, mais il y a eu comme toujours aussi quelques rencontres, hein, même avec les Coréens du Nord.
Il n'y avait pas de quartier vietnamien, il n'y avait pas de restaurant.
Ils étaient souvent dans d'immenses bâtiments, ils étaient isolés du reste de la population.
Il y avait des étudiants quand même.
Dorothée,
ils étaient ghettoisés.
Complètement ghettoisés. Ouais.
Donc il y a eu des rencontres de manière très limitée, effectivement. Mais voyez, il faut prendre en compte.
Ce qui était extraordinaire à Berlin-Est, je voudrais peut-être terminer là-dessus, c'est le fait que c'était vraiment l'inverse absolu de Berlin-Ouest. Berlin-Ouest, des bistrots, des boutiques, de la consommation, des groupes de rock, on se marrait. Berlin-Est, des avenues vides, pas de boutiques, des restaurants vides, pas de voitures, un silence dans les rues, des immeubles, on se demandait où étaient les habitants.
Et quand d'ailleurs, le paysage sonore, vous avez tout à fait raison, la RDA était très différent. C'est-à-dire les gens sentaient que le son n'était pas le même qu'à l'Ouest.
Quand des Américains comme James Baker, le secrétaire d'État de Bush père, est allé pour la première fois à Berlin-Est, peu de temps après la chute du mur, c'est ce qui l'a frappé. La couleur, donc le gris, et les sons, et donc vraiment l'impression qu'il y avait deux mondes totalement différents.
Et bien après le silence de la RDA, on va tout de suite partir en live avec Marion Guilbeault, avec le son du côté de Marion.
Salvador de Bahia.
Ça nous change un peu de l'Allemagne, dites donc.
Sur France Inter.
Et tout se termine toujours en musique, dans le NRV, on dirait un beau pays. Marion Guilbeault.
C'est ça. Et on finit aujourd'hui avec Lucas Santana, c'est un artiste brésilien qui cherche quels peuvent être les points de rencontre entre ses désordres intimes et la situation politique, sociale, écologique, culturelle très très dégradée de son pays depuis l'élection de Bolsonaro.
Ah bon?
Ah bah oui, il paraît.
Ah ouais, je crois que tout se passait très bien.
Ouais, comme ça, on avait
un vrai président, un peu
bien
fort.
Bien sûr.
Méfiez-vous, Laurent.
Lucas Santana chante ses états d'âme depuis le début des années 2000. C'est le neveu de Tom Zé, c'est vraiment une légende de la musique brésilienne. Son père, Roberto, était le producteur historique des Tropicalis. Alors avec un tel environnement, Lucas Santana, lui, il a eu envie pour sa propre écriture de se démarquer des anciens et d'emmener les sons de son pays vers des rivages plus contemporains, plus électroniques, voire plus inattendu, comme des samples de Debussy, de Beethoven, des dialogues captés dans un aéroport, et même la voix d'une célèbre actrice française.
Ça fait longtemps que tu n'es plus immobile. Rien que le souffle d'une herbe à l'écoute de ton corps et le silence en toi comme un enfant qui naît.
Question jaune pour Laurent Goumard.
Tu parles, c'est... Vous n'êtes pas le colonel Chabert.
Pas du tout.
C'est ça. Fanny Ardant.
Fanny Ardant. C'était Human Time et cet extrait de l'album Sobre Noite et Dias, excusez-moi pour mon portugais, Laurent, en 2014. Alors en 2019, Lucas Santana, il est comme nous, hein, il a le blues face à l'obscurantisme, à la forêt qui brûle, à la ségrégation raciale très très violente dans son pays. Mais lui, pour lutter, pour réagir, pour résister, il a choisi non pas de crier, mais de simplifier sa musique et de chuchoter des messages d'amour sur un album très très dépouillé, avec juste une guitare, une voix, comme son modèle João Gilberto, disparu en juillet dernier. Ça sonne vraiment comme un retour aux sources de la bossa nova, et c'est comme ça qu'il a choisi de se battre pour un Brésil cultivé, créatif, métissé, pacifié. It's up to you, Lucas Santana. Je ne sais pas le dire en brésilien, excusez-moi.
Cette chanson s'appelle « Ninguém solta a mão de ninguém ». Quando a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém, pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mata e atira em alguém que cuida da floresta como mais ninguém, faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Se criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também, movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer nome, sobrenome, nome, sobrenome. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Dentro de nós.
Super. Merci à vous, merci beaucoup.
Lucas Santana, c'est extrait de son nouvel album Oseu e Velho a Muito Tempo. Ça veut dire le ciel est vieux depuis longtemps. Ça sortira vendredi prochain, le 18 octobre. Il sera en première partie de Rodrigo et Gabriela dès le 16 à Bordeaux, Nantes, Marseille, au Trianon à Paris, les 21 et 22 octobre et à Reims. Et sur sa guitare, vous avez vu l'autocollant? This machine heals the fascist. Ça parfait, fait référence ça. À Woody Guthrie.
Cette machine soigne les
fascistes.
Voilà,
exactement. La prise de son ce soir était assurée par les tropicalistes Mathias Alléon et Théo Gomard. Merci à vous et merci à vous, Lucas Santana.
Merci à nos invités. Merci, Dorothée Gaulle. Là aussi, il y a un disque. L'hystérie. L'hystérie, c'est le nom de scène de Dorothée Gaulle. Merci, Nicolas Offenstadt. Vous rappelez le titre? Parce que je vais encore le foirer.
Alors, je m'en occupe, Laurent. Urbex RDA, voilà, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés.
Aux éditions Albin Michel. Et Le pays disparu sur les traces de la RDA, ça vient de ressortir en folio. Bernard Thomasson, Mont Berlin, ça sortira demain aux éditions MM2M. Et Pierre Grosseur, 1989, l'année où le monde a basculé, est disponible aux éditions Perrin. Merci à vous quatre. C'était le NRV première partie. Le mur de Berlin dont on vient de parler, eh bien ça va revenir dans le NRV La Suite France Inter Plus à partir de lundi prochain et pour deux semaines avec Monsieur X. Ça va faire plaisir à Christophe, il y aura beaucoup de questions d'espionnage, de tunnels et de Stasi. Demain, au programme du NRV.
Be you, be proud of you because you can be do what we want to do.
Il était génial, François Hollande, quand il parlait en anglais. On va parler toutes les langues demain, et régionales aussi, parce que c'est un combat. On vous attend sur le sujet, vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur, dans toutes les langues possibles. 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, on les passe à l'antenne, quand il y en a, bien entendu. En live, Marion, demain.
Nouvelle tête, nouvel son, c'est Loose and the Yakuza.
Loose, elle est française.
Ouais.
Et les Yakuza?
Ah, les Yakuza, je sais pas. On va voir. C'est peut-être les Queens de Christine.
Exactement.
C'est un peu pareil.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation et la préparation. Virginie Rouzic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.